Bonjour, bienvenue sur UX Content Craft. Je suis Apolline, UX Writer Freelance et cofondatrice de Lorem. Lorem, c'est une école de formation à l'UX Writing et aussi un studio pour accompagner les équipes design et produit dans la conception des contenus de leur interface. Sur UX Content Craft, je pars à la rencontre d'UX Writer, de Content Designer, de Product Designer, de Product Manager et bien d'autres encore. Pour, devinez quoi ? Parler du UX Writing. Ensemble, on discute de leur parcours, de leur quotidien, de projets challengeants et de la structuration de l'expertise contenue dans leur équipe. Avant de commencer la discussion du jour, je vous invite à noter le podcast, avec une super note bien sûr, et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, place à l'épisode. Pour cette nouvelle conversation, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Promera. Vous avez peut-être entendu son nom ou vu son nom passer sur des sujets liés à l'UX Writing ou au Content Design. Et pour cause. D'abord, Camille fait partie des pionniers et pionnières de l'UX Writing en France. Elle a commencé à pratiquer l'UX Writing il y a une petite dizaine d'années, bien avant que le terme fasse son apparition en France. Ensuite, Camille est la co-organisatrice des Meetup UX Writers FR. D'ailleurs, petit aparté, si vous ne l'avez pas vu passer, le prochain événement d'UX Writers FR a lieu le 29 février en partenariat avec Nexton sur un sujet plus qu'intéressant, le Content System. Mais revenons à Camille. Pendant plusieurs années, elle a évolué en tant qu'UX Writer et Content Designer en freelance. Et puis en 2022, elle s'est laissée tenter par miracle et a décidé d'y poser ses valises, cette fois en tant que salarié et en tant que Content Ops Manager. Le métier du UX Writer ou de Content Designer, comme on peut aussi l'appeler, est encore relativement nouveau, en tout cas en France, alors on va rajouter une couche de nouveauté à la nouveauté. Je suis pas sûre de cette phrase-là, mais enfin bon. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du métier de Content Ops Manager ? Non ? Oui, vaguement ? Eh bien, tant mieux si vous ne le connaissez pas encore, parce que c'est tout l'objet de cet épisode de podcast. Avec Camille, on va aborder plusieurs sujets. Tout d'abord, c'est quoi le Content Ops Management ? Quels sont ses enjeux ? Pourquoi il fait aussi son apparition progressivement ? Quels sont ses impacts dans les équipes design et produits et dans le produit en lui-même ? Que fait une Content Ops Manager au quotidien ? Et on va s'aventurer un peu dans un futur, en tout cas un futur proche, en se posant la question pourquoi cette discipline va faire parler d'elle en 2024 et les prochaines années. Camille nous répond, enfin répond à mes questions, dans cette nouvelle conversation du UX Content Craft. Bonne écoute. Bonjour Camille.
Bonjour Apolline.
Je suis très contente de t'accueillir sur UX Content Craft pour deux raisons. La première, c'est qu'on va parler d'un nouveau métier. Comme si l'UX Writing n'était pas encore assez nouveau pour pas mal de personnes, on va en rajouter une couche. Et deuxième raison, c'est parce qu'au tout début du podcast, ça remonte hein, quand même à 2 ou 3 ans, enfin je sais plus, j'ai plus trop la mémoire des dates. Je t'avais sollicité et en fait c'était une période où tout le monde te sollicitait parce que tu fais partie des pionnières en France en fait en UX Writing. Donc du coup, tu avais dit non, mais j'ai totalement compris parce que tu étais un peu partout, on entendait ton nom partout. On l'entend toujours et c'est très cool. Et aujourd'hui, ouais, on va vraiment parler de ton métier, ce que tu fais actuellement, comment t'as évolué en fait de l'UX Writing vers Content Ops Manager. Et c'est vraiment, on va parler de Content Ops aujourd'hui. Avant de commencer un peu à rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va remettre un petit peu en contexte les choses. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours ? Bon, je ne te demande pas depuis le bac. non pas que tu sois âgé, mais voilà, on ne va pas passer l'heure là-dessus. Et comment en fait tu en es arrivé à l'UX Writing ?
Bah bien sûr, bah déjà, merci beaucoup à Pauline pour l'invitation. Ça me touche beaucoup. En effet, on s'était parlé il y a quelques années pour ce podcast. Et c'est vrai que, comme tu le disais, je m'étais dit que c'était pas forcément le bon moment et que c'était intéressant de laisser la place aussi à d'autres voix. Et bah écoute, en effet, ça a déjà pas, ma parcours a déjà pas mal évolué depuis ta première, notre premier contact. En effet, donc je viens aujourd'hui pour te présenter le métier de Content Ops, mais pour repartir un petit peu en arrière, donc moi je m'appelle Camille Proméra, j'ai 37 ans, j'habite en région parisienne et je suis donc Content Ops Manager chez Miracle. Alors au niveau de mon parcours, donc il est assez classique je pense pour des gens de notre métier, c'est-à-dire que j'ai un bac littéraire sur mon au bac, et j'ai fait des études de langue et j'ai obtenu un master. Il y a une quinzaine d'années en industrie de la langue à Paris. Et c'est un master qui est un petit peu novateur autour des nouveaux métiers du contenu, que ce soit la traduction, la rédaction technique, gestion de base de données, etc. Donc déjà des premières touches de réflexion de systémisation du contenu. Et donc maintenant, bah, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le monde du contenu, à peu près 10 ans dans la tech. Voilà.
Ok, hyper, hyper intéressant. Et oui, c'est vrai que c'est. Heureusement que tu ne vas pas sortir, j'ai un parcours atypique. Je pense qu'on a tous un parcours atypique, surtout quand on arrive à ces nouveaux métiers-là. Et aujourd'hui, du coup, tu es Content Ops Manager chez Miracle. Et juste pour un peu poser le contexte, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Miracle?
Alors bien sûr, donc Miracle, c'est une entreprise française qui a un peu plus d'une dizaine d'années et c'est une entreprise qui propose une plateforme SaaS à des entreprises du monde du e-commerce pour qu'elles se lancent dans une activité marketplace ou dropship. Donc c'est-à-dire que typiquement, on a un très gros client qui est Macy's, qui a un site de e-commerce, donc qui a ouvert une marketplace grâce à Miracle sur son service. Et même si notre produit core, c'est justement un back-office de marketplace, on propose tout un écosystème de produits depuis quelques années qui va du paiement à la facturation à la publicité. Donc en fait, c'est vraiment, Miracle est vraiment, on va dire, un moyen de transformer une activité e-commerce entre guillemets classique vers quelque chose de multiplateforme, multimodèle, on va dire. Voilà.
Ok, d'accord, ça marche, très clair. Et ton métier aujourd'hui, comment tu l'expliques, non pas à quelqu'un de ta famille, mais on va dire à un designer ou à quelqu'un qui bosse dans le produit, comment tu l'expliques simplement et
Non,
rapidement?
mais c'est une très bonne question parce que, comme tu le disais, nos métiers du content appliqués aux produits, donc l'UX writing, la stratégie de contenu, etc., ça peut sembler déjà un peu obscur. Et c'est le métier de content ops, bon, voilà, c'est encore un autre niveau. Donc, la chance que j'ai, c'est que le métier d'ops, il commence à un peu être connu, que ce soit côté design et côté produit. Donc, ça aide. Mais moi, en général, quand on me demande ce que je fais au quotidien, c'est que j'explique que j'aide à mettre de l'huile dans les rouages, en fait, au niveau process, outils, formation. J'aide à organiser, que ce soit pareil, un nouveau process, un outil, une base de données. Et il y a aussi une dimension que moi j'aime beaucoup, c'est une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que mon rôle en tant qu'ops, c'est évidemment, entre guillemets, de ranger, que tout soit bien au bon endroit et que tout le monde soit le plus efficace possible. Mais il y a un côté d'ouvrir les chakras, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe ailleurs pour éviter que les autres éventuellement, entre guillemets, perdent du temps à le faire. Donc c'est d'amener les bonnes ressources aux bonnes personnes, proposer des formations en interne, ou voilà, identifier des besoins autour de ces métiers du contenu. C'est une partie de mon taf que j'aime beaucoup.
Ok. Et aujourd'hui, chez Miracle, comment s'organisent un peu bah, les équipes? C'est quoi la structuration, produit, design, juste pour en savoir un peu plus
Alors, l'équipe produit Miracle, elle compte une petite cinquantaine de personnes. Donc, il faut savoir que chez Miracle, c'est un peu comme partout, c'est une boîte qui est à l'origine très tech-led, c'est-à-dire qu'on a une énorme équipe technique qui s'appelle l'équipe Labs, et l'équipe produit fait partie de cette équipe technique. On est vraiment une entité à part entière avec une super bonne communication entre les équipes techniques et les équipes produits. Et donc, au sein de cette équipe produit, Nous avons des piliers. On a un pilier autour de la gestion des commandes, un pilier autour de la gestion du catalogue, donc du catalogue de produits. On a aussi un pilier sur la plateforme en elle-même, donc tout ce qui est droit, etc. Et on a aussi des piliers sur les, entre guillemets, petits produits, donc notre produit de facturation, notre produit de publicité. Et donc, on a vraiment un directeur produit sur chacun de ces piliers, avec en dessous des PM qui sont à la tête d'une squad avec un squad lead côté technique. Donc, c'est une organisation, je crois, assez classique, la squad, justement pour avoir une connaissance assez fine d'un domaine ou d'un code, etc. Mais on a aussi récemment lancé des squads de projets, donc justement sur des initiatives un peu plus transverses. Donc, ces squads, elles sont plus éphémères, c'est-à-dire qu'on sait quand elles vont se terminer. Donc, ça, c'est aussi un mode de travail qu'on expérimente. Et ce qui est intéressant aussi côté Ops, c'est qu'on est trois Ops en fait, dans l'équipe, c'est-à-dire qu'on a un Product Ops qui s'appelle Luc Andriana, qui est donc côté produit. On a une Design Ops qui s'appelle Marie Valentine, qui est côté design. Et moi aussi côté design sur les problématiques contenu. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas forcément sous le même chapeau, mais on travaille ensemble vraiment sur déjà notre propre montée en compétences. On recueille les besoins aussi de différentes personnes, on peut mettre en commun ça facilement. Donc c'est super intéressant. Et côté design, on a un petit peu la même orga, c'est-à-dire que on a un directeur design avec trois leads, et chaque lead design s'occupe, on va dire, d'un groupe de piliers. Et ensuite, on a les designers qui travaillent sous chaque pilier. Donc, en général, un designer couvre 2 à 3 squads, donc ce qui peut être beaucoup. Donc, on a des systèmes de priorisation. Et le dernier point qui est intéressant, c'est qu'on a récemment aussi changé notre orga concernant le design system. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, on avait vraiment une équipe expérience au sein de cette équipe design qui justement portait le design system. Et comme notre design system est arrivé à un certain niveau de maturité, la responsabilité de la maintenance et de la création de nouveaux composants a été dispatchée entre les leads. Donc, c'est assez intéressant parce qu'il y a un recueil des besoins vraiment au plus près des projets. Et ça nous permet d'avoir justement une sorte de gouvernance avec les leads et notre engineering manager sur notre design system pour justement travailler sur les composants et leur évolution ou leur création. Voilà.
Ouais, c'est toujours un enjeu. Enfin, il y a certes la création du design system et même du content system, mais c'est comment on le maintient et surtout on le fait évoluer, on le fait challenger aussi. Et du coup, en design, il y a combien de personnes à peu près?
Alors, au sein de l'équipe design, on est 12.
Ok. Du coup, ouais, tu te comptes dedans et il y a, et côté, on va dire, content design, tu es...
Alors, nous, c'est aussi une orga assez particulière qu'on a. C'est-à-dire que nous n'avons pas du UX writer ou de content designer à proprement dit. La responsabilité du contenu et repasser côté PM et UX suite à une réorganisation des équipes au global. On avait une équipe rédaction technique qui travaillait sur la partie expérience, mais qui a été rebasculée dans une autre unité et avec d'autres priorités business. Donc actuellement, justement, une grande partie de mon travail, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on a préparé en termes de guidelines, d'outils, etc., s'adapte à cette réorganisation. Donc, nos PM et nos designers sont formés à l'UX writing. Et mon rôle en partie, justement, c'est de leur proposer les bons outils pour qu'ils proposent un contenu le plus optimal possible avec des sessions de pairs, de co-conception avec moi. Donc, c'est justement un de mes enjeux 2024.
Mmh, ok. Et je m'avance un peu dans la partie concrète du métier, mais tu dis ils sont formés, les personnes sont formées à l'UX writing, c'est toi qui les as formés et que tu les formes en continu aussi?
Alors, il y a eu une formation initiale côté design et en fait, on les forme en continu, c'est-à-dire qu'on a la partie guidelines de notre content system, on a la partie technique aussi et composants de notre content system qui les aident. Et en gros, moi, je propose vraiment des créneaux de co-conception, justement, pour mettre les projets sur de bons rails. Parce qu'on se rend compte que c'est souvent là où ça dérape. c'est pas tellement sur la finalisation des textes, c'est un peu plus sur finalement la stratégie, qu'est-ce qu'on dit au bon endroit, comment on découpe le contenu, comment on le hiérarchise, etc. Donc ça, vraiment, c'est un vrai enjeu chez nous, cette formation continue. Et comme je te disais, mon métier, c'est vraiment aussi d'être à l'écoute. Donc il y a vraiment ce côté, quels sont les besoins? Peut-être il y a quelque chose qu'on a fait il y a 6 mois qui ne marche pas, qui n'a pas eu l'impact escompté. Donc, qu'est-ce qu'on propose, voilà, pour les aider.
Ok, ouais. Du coup, plus sur la partie, au final, architecture de l'info, qui est un enjeu un peu
ouais,
plus important.
Oui, c'est un vrai enjeu chez nous. Et justement, moi, je suis en train de réfléchir à comment mieux former à ça. Comment, en fait, vraiment planter cette petite graine de wireframe, pur contenu, etc. C'est un vrai enjeu.
Ok. Du coup, maintenant, on rembobine pour passer dans le concret. Et alors, concrètement, c'est quoi le métier de Content Ops Manager?
Alors, très concrètement, moi, la manière dont je le définis, comme je le disais, il y a ce côté mettre de l'huile dans les rouages. Mais si on devait donner une définition un peu plus concrète, je dirais c'est tout faire. Mon métier, c'est de faire en sorte que l'orga fonctionne bien pour livrer le meilleur contenu possible. Donc, quand je dis contenu, je parle uniquement du contenu interface produit, pas du tout marketing ou PMM. Donc, mon rôle, c'est vraiment de se dire, OK, qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon orga et que les gens dans cet orga proposent le meilleur contenu possible. Je m'occupe pas du tout de la livraison, tu vois, des meilleurs briefs ou des meilleurs features. Moi, mon rôle, c'est vraiment de se dire, OK, comment faire en sorte que mon équipe performe au bon niveau. Donc il y a plusieurs aspects et je dirais il y a 3 piliers. Donc le premier, c'est les process. Il n'y a pas de secret pour bien travailler ensemble dans une entreprise où il y a une complexité, des gens qui sont pas forcément dans le même bureau, qui ont des niveaux de seniorité différents, des modes de travail différents. Bah, il faut trouver un terrain d'entente. Et donc, mon rôle chez Miracle, c'est un des premiers sujets sur lesquels j'ai bossé, c'était réfléchir à comment intégrer le contenu au process de création du produit et de feature globalement. Donc, l'idée, c'est d'avoir justement le meilleur process pour l'équipe. Ce qui est un peu compliqué, c'est que le process qui marche, imaginons le 1er janvier 2023, peut-être que le 30 juin 2023, il ne marche plus. Parce que l'entreprise a grossi ou au contraire a réduit, que les exigences sont plus hautes, qu'il y a un grain de sable qui s'est glissé. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de constamment réfléchir à où est-ce qu'on peut s'améliorer. Donc, évidemment, il y a les créer, les mettre en place, mais il y a aussi vraiment la partie les évaluer. Ouais, pour les faire évoluer. Et donc ça, c'est pas forcément toujours facile parce que ce qui va à l'un peut ne pas aller à l'autre. On peut devoir changer un process qui marche en anticipant le scale d'une entreprise. Donc en fait, c'est vraiment un jeu, tu vois, d'équilibriste. Et c'est un peu comme dans le design ou le design au sens conception, il faut faire des interviews, écouter les gens, y mettre des hypothèses, etc. Donc, cette partie process, moi, je l'applique à la rédaction, à la conception et à la rédaction, mais aussi à la localisation, donc tout ce qui est aspect traduction de notre plateforme. On réfléchit à un process un peu plus carré pour la review des maquettes, que ce soit pour le content, mais le design, mais aussi le ROI même des features. Donc, il y a vraiment un aspect vraiment amélioration continue qu'il faut bien avoir en tête. Alors, pour moi, le process, c'est la première chose. C'est de toute façon par là qu'il faut commencer, bien avant de penser outillage, recrutement, on va dire technique.
Ouais, ça permet aussi de mettre en confiance aussi les équipes. Et peut-être de sortir un peu, je reprends toujours ça et je pense que c'est toi qui l'as dit ou au sein du X Writers FR dont tu fais partie, de sortir du j'aime pas. Moi, c'est vrai que je suis encore vachement confrontée à ça quand je donne des formations où en fait les designers arrivent pas à s'accorder entre eux et ils se disent ouais, mais moi, j'aime pas comme ça. Ouais, mais moi, je préfère comme ça au niveau du contenu. Et peut-être que justement, les process, ça les met en confiance et tout le monde arrive à mieux s'aligner.
C'est ça, c'est un super point. En fait, nous, le process, on a mis des jalons de validation à plusieurs, on va dire, pour expliquer ça en mode vraiment grosso modo, au niveau de chaque phase d'un double diamant, à peu près. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce sas de validation. Alors, on n'y arrive pas tout le temps, mais c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de viser, d'avoir vraiment ce truc de se dire, OK, le concept est OK, le wireframe est OK, le ifi, OK, on avance. Mais en effet, sur le contenu, sur le design, il y a un peu ça encore. Sur le contenu, on l'a beaucoup. Et donc, ça m'amène à mon deuxième point, qui est l'outillage. Alors, l'outillage, c'est quelque chose que tout le monde adore. Moi y compris, hein, je jette la pierre à personne, j'adore ça.
L'objet brillant.
Voilà, c'est ça. C'est se dire, bah, il faut un outil, ça va résoudre tous nos problèmes. Évidemment, la réponse est non. Il vaut mieux avoir un process solide avec peu d'outils et itérer là-dessus qu'acheter une Rolls, mais au final, pas savoir comment s'en servir parce qu'on n'a pas les bons process. Mais c'est sûr, on ne va pas se mentir, la partie outillage, c'est une partie qui est passionnante dans nos métiers. Et évidemment, je pense qu'on parlera de l'IA, mais l'IA est du coup un nouvel outil dans nos métiers. Donc justement, il faut appréhender ce sujet-là, donc OpenAI, mais aussi tout ce qui est traduction un peu améliorée, tous les outils de l'IA appliqués à ça. Donc évidemment, bah, y a des sujets là-dessus. Mais le gros du travail en termes d'outillage côté contenu, c'est le content system, qui s'est greffé assez naturellement chez Miracle à notre design system qui s'appelle Roma. De manière assez, vraiment, comme je dis, assez naturelle, on a réfléchi notre manière de gérer le contenu de manière systémique, donc sur deux aspects. Donc l'aspect guidelines, qui est un peu le nerf de la guerre quand on est rédacteur, c'est-à-dire comment on rédige une modale, comment on rédige une snack bar, quelles sont nos valeurs design, quelles sont les règles de grammaire qu'on suit. Peut-être on parlera un petit peu de ça plus tard, mais voilà, c'est l'aspect guidelines. Et nous, il y a vraiment tout un pan sur lequel on a énormément travaillé, qui est la partie finalement technique et composant notre content system, c'est via la création d'un CMS, donc un content management system, qui chez nous s'appelle Calliope. C'est un outil interne qui nous permet justement de gérer nous-mêmes, sans les devs, tout le contenu de notre plateforme. Donc en gros, ça nous permet de modifier la langue source, d'envoyer en traduction, de grouper des chaînes qui ont une logique sémantique, ou de grouper des chaînes qui sont au même endroit dans un composant. Donc ça nous crée une sorte de librairie réutilisable. Et c'est vraiment un sujet que j'ai porté chez Miracle et qui me tient beaucoup à cœur et qui aide au quotidien les équipes, tant technique que produit. Évidemment, bah, y a une partie qui est dans mon scope depuis quelques semaines seulement, c'est la partie localisation. Donc évidemment, bah, y a un tooling à améliorer sur ces sujets. Donc comment faire en sorte qu'on ait le meilleur process, le meilleur outil pour la loca, donc le meilleur TMS, la meilleure mémoire, etc. Donc ça, c'est vraiment un sujet moi qui me passionne. Moi, on parlait du bac au début du podcast. Moi, j'ai un bac LSP maths et je trouve que c'est mon métier reflète totalement cette dichotomie personnelle, l'aspect très très technique, scientifique, carré, et à la fois l'amour des langues et des mots.
on en discutait avec Clara hier justement, la science de l'UX writing. Quand sortira cet épisode, de toute façon, normalement son podcast à elle sera sorti et elle aura une tagline, ouais, science de l'UX writing. Et c'est vrai que c'est ça, au final, on travaille sur les mots, mais ça reste une science aussi, en fait. Et oui, je pense qu'il y a cette dichotomie tout le temps qui est intéressante. Ouais.
Bah, c'est ça. Et donc, tu vois, autant tu as un aspect qui peut sembler entre guillemets froid, c'est-à-dire qu'on applique des principes, des méthodos, on est une sorte de PM de l'orga pour le contenu. Et il y a l'aspect beaucoup plus humain, justement, qui est l'amélioration continue de l'équipe. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer les compétences de chacun, de faire en sorte que les gens qui ont peu confiance en eux sur les métiers du contenu puissent être accompagnés, que ce soit c'est pas un problème de pas avoir de compétences, de pas avoir de connaissances. C'est à notre rôle d'amener les gens à un niveau dessus, etc. S'il y a des gens qui sont beaucoup plus formés, bah, c'est de les amener encore plus loin et vraiment de creuser tous ces besoins. Donc ça, c'est une partie qui est top parce que moi, je suis pas dans un rôle de manager avec les gens chez Miracle, je ne manage personne. Mais justement, il y a cet aspect coach qui est super intéressant aussi. Et comme je disais, on peut avoir du stress via du contenu, rapport à un trauma de l'école ou la peur de mal faire. Donc, c'est aussi notre rôle de, tu vois, de. J'ai l'envie de débunker, mais en fait, de retirer vraiment cette angoisse, c'est de comprendre ce stress et justement de le faire sauter, quoi. Ça, c'est vraiment super.
Ouais,
c'est exactement ça. Ouais.
Et tu arrives à embarquer les équipes, le design, justement, dans tout ce que tu mets en place et est-ce qu'ils arrivent aussi à s'approprier tout ça?
Et bien, justement, là, tu vois, c'est tout ça, notamment tout ce qui est content system, guidelines, c'est finalement un outil que les designers s'approprient depuis quelques mois. Donc, et l'IA aussi. Et on voit les premiers résultats, c'est-à-dire on voit des designers qui posent des questions ultra pertinentes rapport à nos guidelines, qui se disent oui, c'est marqué ça dans les guidelines, mais je ne sais pas vraiment si c'est applicable dans mon cas. Ou alors on va avoir des designers qui vont aller chercher des ressources un peu en externe et essayer de partager. Donc ça, on voit que ça prend. Après, c'est un travail de longue haleine. C'est pas. Je pense que toi, tu dois connaître ça aussi en mission. C'est pas un travail où tu claques des doigts et ça se fait. Il faut vraiment répéter. On a un product director qui nous dit toutes les semaines que la répétition fixe la notion et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut, sans évangéliser sur la valeur du contenu, parce que chez Miracle, c'est pas ce besoin-là, c'est vraiment amener des connaissances, en fait, aux bonnes personnes et au bon moment.
Ouais, ça reste la conduite du changement.
Ouais, tout à fait. Ben, notre rôle, au final, là, je travaille sur un projet transverse avec plusieurs personnes de chez Miracle. Vraiment, c'est un projet vraiment de transfo d'équipe, de plateforme, etc. Et c'est vraiment ça. En fait, on est les product managers du change. Donc, c'est une autre dimension dans nos métiers où justement, le posture du UX writer est souvent un peu en retrait, pas à juste titre, hein, mais souvent un peu en retrait, à devoir un peu se battre pour être écouté, pour avoir la bonne place, etc. Et nos métiers de l'Ops, ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y a ce truc de, il faut embarquer un grand nombre de personnes à des niveaux hiérarchiques différents sur des projets. Et donc ça, c'est encore une dimension. C'est quelque chose que je fais depuis quelques années, mais c'est assez récent finalement. Et c'est vraiment pas un autre métier, mais c'est une autre manière de voir les choses. Je trouve que c'est aussi intéressant.
Et du coup, comment t'as été amenée à créer ce job chez Miracle? C'était quoi l'enjeu, le besoin de départ?
Alors, c'est un peu particulier parce que je suis arrivée chez Miracle en tant que consultante, en tant que freelance, après mon retour de congé maternité, donc il y a un peu plus de 2 ans et demi, je crois. Le point de départ de cette mission, c'était l'envie justement de poser les bons process et d'avoir une sorte d'état des lieux de la, on va dire, du niveau et de la maîtrise du contenu en interne. Donc la chance que j'ai eue chez Miracle, c'est qu'en arrivant et assez rapidement, au moment où, grosso modo, quand on arrive en mission, on explique, voilà, mon métier c'est ça, l'UX writing c'est ça, on peut bosser comme ci comme ça. Assez rapidement, quand je dis assez rapidement, c'est environ en l'espace de 10 minutes après le début de cette presse, on m'a vraiment fait comprendre que ça, je n'avais pas besoin de le faire parce que ce que c'était les métiers du content, c'était déjà bien intégré. Et donc, en gros, ce qu'on allait me demander, c'est d'aller vraiment dans le dur. Et donc ça, c'est là où j'ai eu un peu le déclic en me disant, ok, là, il va y avoir quelque chose d'intéressant. Là, je pense que c'est vraiment finalement la clé dans notre boulot, c'est d'avoir une hiérarchie qui comprend exactement ce qu'on fait, à qui on n'a pas besoin d'expliquer ce qu'on fait. Et moi, j'ai la chance d'avoir un directeur design et une CPO qui ont bossé dans des entreprises où bah, ces fonctions existaient déjà. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Et donc, vraiment, en arrivant là-bas, on m'a dit, bon, voilà, notre process design, il est celui-ci. Où est-ce qu'on devrait penser contenu pour la loca, comment on devrait s'organiser? Qu'est-ce que tu as vu dans d'autres entreprises qui nous manquent? Et donc, en gros, il y avait vraiment une volonté de réfléchir à régler des soucis, c'est régler des problèmes qui existaient, qui avaient été identifiés, mais de se préparer pour le scale. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais... C'est pas que je l'avais jamais fait, mais je l'avais jamais fait à ce niveau. C'est-à-dire qu'on m'a dit, voilà, est-ce que la solution que tu proposes, elle va marcher dans 1 an? Oui, non. Est-ce qu'elle va marcher dans 5 ans? Oui, non. Et en gros, là, il y a un autre niveau de réflexion qui s'enclenche. Et vraiment, c'était le besoin principal, c'est de se dire, ok, nous, on veut les bons process, pas pour tout de suite, mais pour demain. Qu'est-ce qui va faire en sorte que notre manière de gérer, bah, par exemple, les strings de contenu, elle va marcher dans 5 ans? Qu'est-ce que tu nous proposes? Donc ça, c'était vraiment top. Et il y avait à l'époque une équipe de rédaction technique qui aidait déjà sur la partie content pour les interfaces. Ce n'est plus le cas maintenant, mais qui existait à l'époque. Donc, au final, les compétences, je n'avais pas tellement à les développer parce qu'elles étaient déjà là. Donc, il n'y avait pas cet enjeu-là. Mais par contre, c'est la base de notre métier de content ops. On m'a demandé de développer des systèmes, des techniques, des systèmes linguistiques, des process. Donc, vraiment, la mécanique pour que l'orga roule. Et donc ça, c'était top. Et ce qui est toujours aussi intéressant chez Miracle, c'est qu'il y a la capacité de regarder ce qu'on a fait, de se dire, ce qu'on a fait ne marche pas, retentons autre chose, et faisons évoluer ce qu'on a fait. Et donc au final, j'avais une grande liberté sur ce qu'il fallait proposer. Évidemment, c'était pas fait en claquant des doigts, il y avait des personnes à convaincre, une timeline à poser, un coût aussi à déterminer. Mais il y a eu la place de faire ça. Et donc, en termes de contenu, c'est très, très appréciable. Et en général, quand on me demande justement quel a été le déclic chez Miracle pour bosser sur ces sujets-là, je me suis beaucoup reposée sur le parallèle avec le design system. C'est-à-dire que j'expliquais, il dit voilà, un designer dans une entreprise, il arrive, il a ses guidelines pour utiliser son composant, il a ses composants dans Figma, les devs ont la version développée des composants et ils peuvent travailler correctement comme ça. Je fais, nous, on s'attend à ce que quelqu'un au content qui bosse déjà avec plusieurs produits, enfin sur plusieurs produits, pardon, il travaille de manière aussi efficace alors qu'il n'a aucun de ses outils. Il n'a pas de guidelines, il n'a pas la capacité de réutiliser du contenu existant, mais par contre, on lui demande un niveau de qualité identique. Et souvent, ce truc fait tilt. Si on le map sur une diapositive, tu vois, slide, en fait, ça marche. On se dit, ah mais oui, en fait, pourquoi un métier serait très bien outillé et pas l'autre? Et ce truc-là, justement, tu veux parler du j'aime pas, je trouve que ça, justement, ça casse ce truc-là en disant, nous aussi, notre métier, il peut être un peu normé, il peut être accompagné par des outils, etc. Donc, en gros, ça marche pas mal. Et au final, ça se passait tellement bien qu'on m'a proposé de rester. J'ai un peu hésité par peur, justement, de perdre, entre guillemets, en liberté. Par rapport au freelance, je pense que tu connais bien ces enjeux. Et au final, je me suis dit, il n'y a aucune raison d'être moins libre, alors que pendant 9 mois, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais, dans la limite de raisonnable, bien sûr, et je me suis dit, en fait, voilà, c'est un blocage dans la tête. Et donc, je suis restée en CDI chez Miracle, où je suis depuis 2 ans et quelques maintenant.
Du coup, ce que quand je t'entends parler, je me dis, bah, c'est qu'au final, il y a une certaine, bah, il y a une maturité en fait côté content, design, produit et même tech. Donc au final, ce que je me demande, c'est est-ce que quand tu arrives dans une boîte, s'il n'y a pas cette maturité-là, est-ce qu'il vaut mieux faire du craft ou alors on s'attaque tout de suite au côté système et du coup guideline, etc. Tu vois, c'est toujours un peu... Tu as envie de donner une cohérence à tout ça et du coup commencer les guidelines, mais en même temps, s'il n'y a pas cette maturité design, il n'y a pas cette compréhension de la valeur ajoutée, du contenu, etc., bah en fait, tu sais pas trop comment naviguer un peu dans tout ça.
Oui, t'as raison. En gros, il y a un point qui est important pour moi aussi, c'est, tu vois, là, moi, en tant que content ops, je fais pas de production. C'est-à-dire que je ne rédige pas, je bosse pas sur les maquettes. Ça, c'est évidemment sur le papier. S'il y a besoin de dépanner, je suis toujours là, il y a évidemment pas de problème. Mais au final, de l'ops, n'importe quel rédac qui arrive dans une boîte doit en faire. Qui est la différence, et moi le luxe que j'ai, c'est que je n'ai pas à faire à la fois du craft et à la fois de l'ops. Si tu veux, toi tu as dû le vivre, n'importe quelle personne qui écoutera ce podcast a dû le vivre, moi je l'ai vécu, quand on arrive entre un premier rédac ou seul rédac dans une entreprise, ben, on n'a pas envie de perdre le travail qu'on a fait ou la valeur du travail qu'on a fait. Donc en gros déjà, ouvrir un Google Sheet avec des textes qui ont été validés et que tu pourrais réutiliser, bah, c'est déjà penser un peu en système. Si tu réfléchis à noter quelques guidelines de rédaction pour les partager avec un designer ou avec ton boss pour mieux valider des maquettes, bah, c'est de l'ops aussi. En gros, l'ops, c'est les systèmes qui te permettent de bien faire ton travail. Donc, tu peux faire de l'ops sur toi-même. C'est pas très confortable, mais en fait, il n'y a pas le choix de le faire. C'est ça qui est important. Et de se dire que, évidemment, là, ce que je décris chez Miracle, il y a un niveau de maturité qui est assez élevé, parce qu'il y a des exigences qui sont élevées. Mais on peut commencer tout petit, et c'est très bien aussi. Tout le monde n'a pas besoin d'un CMS qui gère des millions de mots. Par contre, avoir un Google Sheet bien rangé qui peut être partagé, un glossaire, un FeedJam où il y a une checklist de validation, bah, c'est déjà quelque chose qui est bien. Faut pas avoir une sorte de syndrome, dire « moi, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça », comme dans les livres, etc. Tant qu'en fait, ce qu'on fait, ça marche pour nous. Et comme je le disais, peut-être un an plus tard, si dans l'entreprise... Et un deuxième rédac, ben les choses elles vont évoluer. Et je suis d'accord avec toi. Je pense que au final, on commence un peu par le craft quand on est dans une plus petite boîte parce qu'il faut livrer. Mais par contre, assez naturellement, on va avoir l'envie de pas perdre le travail. Et ça, c'est normal. Et je trouve que c'est important de souligner qu'on peut vraiment commencer avec des petites choses et que c'est vraiment déjà super. Faut pas dénigrer ça.
Ouais, clairement. du coup, ouais, ton métier, là, je pense, commence à bien se dessiner. On a parlé de pas mal de choses que tu mets en place. Est-ce que tu as un projet en tête concret que tu as pu mettre en place dans le cadre de ton job ?
Alors, un projet très concret qu'on a mis en place, bah, c'est sans grande surprise notre content system. Donc, chez nous, comme je le disais, il y a vraiment un aspect linguistique. Donc de guidelines, de règles de rédaction. Et on a vraiment l'aspect technique, donc la gestion de tout ce contenu. Et donc, ça a été un process long parce que quand je suis arrivée chez Miracle, un des premiers pain points qu'on m'a remonté, c'est je ne sais pas ce qu'a produit l'autre rédacteur comme contenu. C'est très compliqué pour moi d'aller trouver un message d'erreur standard. Parce que il faudrait que j'ouvre, que j'aille dans GitHub, que j'ouvre des PR, voilà, etc. Donc il y avait vraiment ce pain point. Et en arrivant, je me suis dit on va faire un fichier unique, c'est pas très compliqué. Et là, je me suis heurtée à l'orga Miracle, l'orga technique, la manière dont vraiment notre système est conçu en termes d'archi. Et donc il y a vraiment une nécessité de ma part de rebondir, de me dire ok. Comment je vais faire pour mener à même mon projet sans freiner les devs et sans freiner la vélocité de l'orga Miracle, l'orga technique. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on m'a mis assez rapidement en relation avec une développeuse qui travaille chez Miracle sur la dev expérience et qui a été un petit peu mon phare et qui m'a vraiment aidée à concevoir justement notre système de, on va dire, de création et de maintenance de contenu. Donc, on a vraiment travaillé beaucoup ensemble sur une proposition, sur un process idéal technique, sur une plateforme, donc un vrai outil, tu vois, actionnable par les équipes, avec une interface, avec des textes, etc. Et on est allé le vendre, en fait, à notre CPO, à notre directeur technique, en disant, voilà, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ne dérange plus les devs parce que quand on a besoin de changer un texte, que les devs n'aient plus besoin de travailler pendant des semaines sur l'intégration de PR linguistique alors qu'ils ont autre chose à faire. Et donc, on a réussi à vendre ce projet, à le prioriser, et on a mis à un peu moins de 18 mois entre le moment où moi je suis arrivée et le moment où on l'a mis en prod, vraiment à faire le change, créer l'outil, le coder, le designer, le mettre en place, faire le rollout, faire de l'amélioration continue. Et en gros, cet outil, il nous permet actuellement d'être libre sur notre contenu. Et aussi, ça permet aux devs chez Miracle de mettre la clé dans le code, la valeur en anglais, et de plus rien faire. Donc, il y a vraiment aussi un gain de qualité côté dev. Et ça a été un travail hyper valorisant parce qu'en gros, je l'ai souvent dit interne, je fais ça, c'est l'outil que je rêve d'avoir depuis 15 ans et que j'ai pu construire chez Miracle. Et on m'a laissé la possibilité de le construire, évidemment avec un impact qui est traqué, mais se dire, OK, là, en fait, on est libre, on est maître de notre contenu, on est maître de ce qu'on met sur notre plateforme. Donc, c'était un projet qui était de longue haleine. Et c'est un projet qui continue aussi, parce que c'est un produit Miracle à part entière en interne. Donc, il a sa roadmap, il a ses séances de grooming, il a ses designs, il a plein de choses. Donc, c'est un sujet sur lequel moi je fais du design, du PM, etc. Donc, c'est super intéressant et j'apprends beaucoup de choses. Et tout cet aspect technique, évidemment, il est renforcé par nos guidelines. Donc, on a construit nos guidelines content avec nos guidelines design, comme ça se fait de manière assez naturelle maintenant. Et vraiment, on essaye d'allier les deux, c'est-à-dire de faire des ponts entre notre CMS et nos guidelines, d'avoir une vision sur notre content system, à quoi il va ressembler, tu vois, dans un an. On va intégrer une librairie de prompts dedans, on va essayer de faire des ponts avec OpenAI. Il y a vraiment une réflexion un peu long terme là-dessus. Et c'est hyper intéressant parce que je trouve que ça permet de développer d'autres compétences, des compétences de product management, de priorisation en fonction des besoins. Et donc ça, tu vois, c'est génial parce que on a vraiment ce sentiment d'avoir vraiment livré un produit utile en interne qui marche super bien et qui permet aux équipes d'être plus véloces, d'être plus efficaces. Et aussi d'être plus tatillonne en fait sur le contenu. Donc ça, c'est aussi intéressant, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un projet dont on est hyper fier, de manière générale en interne, que ce soit moi ou l'équipe dev expérience, mais aussi l'équipe design, l'équipe produit, parce que c'est vraiment notre bébé. Donc ça, c'est très cool. Et évidemment, ça permet de soutenir finalement tout notre process, ça permet aux équipes de mieux travailler et je trouve aussi ça illustre bien aussi cette culture du partage, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder à tout et voir ce qui a été fait un peu sur les autres produits et ça c'est top quoi.
On veut le voir cet outil, ce CMS, et on veut une conférence présentation avec Camille et avec la dev, ce serait bien.
Oui, je pense que ce serait hyper intéressant de faire ça. Je pense que autant le travail contenu, je le décris très bien, tout ce qui se passe derrière le capot, je ne suis pas en capacité de le faire, mais je pense qu'elle a fait un travail énorme là-dessus et ce serait intéressant, Monique, qu'elle puisse partager ça avec d'autres équipes.
Ouais, carrément. Du coup, tu as beaucoup parlé d'IA, enfin beaucoup, oui quand même au final. Et puis, bah, c'est toujours une question qu'on a hein, tout le temps quand on parle de nos métiers dans la conception de contenu. Du coup, l'IA dans tout ça, est-ce que tu l'utilises pour ton job et aussi pour les équipes?
Ouais. Alors oui, bah, sans surprise, oui. Chez Miracle, il y a vraiment une politique de démocratisation de l'IA. Donc on a eu accès assez tôt à ChatGPT 4. On intègre beaucoup l'IA dans notre produit et on a des formations justement au sujet de l'IA parce que c'est un outil sur lequel il faut se former. Donc au quotidien, côté content, donc il y a un travail sur un GPT personnalisé pour la rédaction. Donc pour la génération de contenu, je suis en train de réfléchir aussi sur un GPT pour la review, donc peut-être avec d'autres critères. C'est quelque chose qui est à un stade assez embryonnaire pour être totalement transparente, mais les équipes en interne utilisent déjà des ChatGPT ou DeepLLwrite pour travailler. Donc ça, c'est un réflexe où les équipes, elles ont pris vraiment seules, en fait, sans directive, tu vois, du Content Ops ou du Design Ops. Parce que il y avait la nécessité d'avoir envie de bien faire tout simplement et de livrer le meilleur contenu. Mais tu vois, à titre personnel, moi je l'ai utilisé pas tellement dans la génération de contenu. C'est que ces dernières semaines j'ai eu beaucoup beaucoup de travail de fond à faire, notamment sur notre projet de localisation. Donc justement, j'ai eu besoin de nettoyer notre mémoire de traduction. J'avais besoin de générer des glossaires à partir de cette mémoire, etc. Et en fait, je me disais, mais comment je vais faire ça? Ça m'a ramené 15 ans en arrière quand j'étais à la fac. J'essayais de me souvenir de comment ça marchait. Et vraiment, je me suis dit, mais en fait, OpenAI, il va pouvoir m'aider à faire ça. Et donc là, j'ai vraiment exploré justement sur la génération d'un glossaire, sur à partir d'un corpus de texte que je lui envoyais, est-ce qu'il arrivait à me sortir de la terminologie. Donc, c'était hyper intéressant parce qu'il y a un aspect... vraiment fascinant. Enfin, moi j'ai une fascination pour les ordinateurs depuis que je suis assez petite. Mon rêve quand j'étais gosse, c'était d'avoir le livre magique de Sophie dans l'inspecteur Gadget. On appuie sur un bouton, il se fait des trucs magiques. Et ben, c'est un peu ça, je trouve, OpenAI. Donc après, c'est toujours pareil, il faut l'utiliser de manière intelligente. Si tu lui dis coucou, traduis-moi ça, il va faire n'importe quoi. Par contre, si tu donnes du contexte, des documents, que tu le cadres, en fait, il fait le travail un peu chiant que tu aurais fait à la mano. Donc, évidemment, je ne mets pas un mouchoir sur le fait que ça peut être une menace pour des emplois. Mais je pense qu'il faut essayer de dompter cet outil comme on dompterait à l'époque Google Translate, les traducteurs, tu vois, ce genre de choses. Mais tu vois, moi, là, je l'utilise pour des petites choses, j'ai d'explorer, mais j'ai l'impression d'avoir encore beaucoup de choses à apprendre, donc j'essaye de trouver des ressources, justement. Si tu en as à me partager, ce sera avec grand plaisir. J'essaye vraiment de me dire, OK, comment je peux appliquer l'IA pour soit aller plus vite, soit m'éviter de faire des tâches chiantes, soit pour améliorer l'existant. Mais c'est sûr que chez Miracle, on a vraiment une consigne de travailler avec l'IA. Donc, c'est vraiment, je dirais que c'est un animal à dompter un peu. Donc, faut s'y coller et bon, voilà.
Ouais. C'est vrai que ça peut faire un peu peur avant qu'on s'y mette, mais je pense qu'une fois qu'on est dedans.
Ouais, c'est un peu ça, je trouve aussi.
Du coup, on arrive à la fin de notre échange et notamment sur des notions de prospective, comme on parlait d'IA. Est-ce que tu dirais que ton job de Content Ops, c'est un peu le futur de l'UX Writing ou pas?
C'est une bonne question. Je pense que de toute façon, les métiers, que ce soit de Lead Content ou Lead Ops, vont, je ne sais pas en tout cas ils vont plus ressortir sur ce nom-là, mais je pense que les individual contributeurs à terme seront moins nombreux. Tu fais de la conjoncture économique, on va pas avoir des entreprises scalées comme moi j'ai pu le vivre il y a 10 ans où on claquait des doigts, il y avait un poste qui s'ouvrait, voire deux, voire trois, où il y avait 50 personnes qui arrivaient le lundi matin. Ça n'arrivera pas. C'est le cas côté content, mais c'est aussi le cas côté design, PMM, dev. On a envie aussi de voir ce qu'une équipe peut faire sans qu'elle scale pendant 3 mois ou 6 mois, par exemple. Donc, je pense que ces compétences, peut-être pas ce métier, mais ces compétences vont être recherchées. Parce qu'en fait, si on réfléchit de manière un peu cash, certains aspects de nos métiers vont pouvoir être quasiment automatisés par l'IA. J'ai pas dit qu'ils seraient bien automatisés, mais ils peuvent l'être. Donc typiquement, si on a un designer qui est formé au principe du UX writing, qui a déjà des très bonnes bases de rédaction, si il a un GPT qui fait de la review de microcopie avec des guidelines un peu béton et un design système béton, il peut très bien se débrouiller. C'est pas du tout donné à tout le monde d'avoir ces compétences-là, mais on va dire l'aspect finalisation ou review, il peut être grandement facilité par ChatGPT. Par contre, certains aspects, l'aspect stratégique, l'aspect impact, l'aspect mise en place de process, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Le change management, c'est pas ChatGPT qui va se mettre en hologramme dans ta boîte, quoi. Donc, je pense que c'est intéressant pour des rédacs qui se posent la question de okay, qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans? De se dire, OK, bah, quels sont les aspects de mon métier qui sont le plus impactants et finalement le plus complexe à gérer? Et typiquement, voilà, comme je le disais, la réflexion autour des process, mais parler aux gens sur leurs besoins, recueillir les besoins, la partie recherche, ben, c'est un aspect qui en tout cas qui ne bougera pas dans l'immédiat. Donc je sais pas si le métier de content ops c'est vraiment le futur de l'UX writing, mais c'est un pan qui va se développer pour moi. Je sais pas si c'est un peu triste ou pas. Je pense qu'il y a des opportunités en tout cas sur cet aspect-là du métier, comme on a vu des designs, les design system managers, etc. D'ailleurs, si on fait un parallèle, on peut remarquer que c'est pas parce qu'il y a des design systems qu'il n'y a plus de designers. Donc, des expertises en content, il en faudra toujours. Mais c'est sûr, on ne va pas se mentir que ces métiers autour de la rationalisation et de l'intégration de l'IA, pour moi, vont se développer.
Ouais. Bah, je posais cette question-là parce que bon, c'est un parti pris qu'il faut que je commence à assumer malgré le fait que j'ai adoré mon expérience chez Conto où je travaillais avec une vingtaine d'UX writers. Je pense plutôt que les boîtes vont s'orienter avec un à deux UX writers et qu'il y aura cet enjeu fort d'ops bah, du fait du contexte économique et aussi bah, parce que on peut faire monter en compétence les designers sur la partie contenu et parce que bah, le contenu, les mots, bah, ça fait partie du design. Donc, est-ce que ça devrait relever la compétence du product designer ou de l'UX designer? Enfin voilà, c'est des questions, mais moi je pense en tout cas que ce sera plutôt d'avoir quelques personnes côté content qui accompagnent les designers. On arrive là sur la fin. Est-ce que, petite dernière question, est-ce que tu aurais des ressources, des outils à partager? Parce que je suppose aussi que du côté, enfin, du fait de ton métier, tu as de la veille aussi à faire.
sais, j'aimerais bien en faire plus que j'en fais, mais en termes de ressources, alors moi, il y a un livre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Leading Content Design, qui a un bon aspect sur l'ops. L'autrice s'appelle Rachel, j'ai oublié son nom de famille, mais
Ouais, je
on va le
retrouve.
retrouver. Qui en plus est quelqu'un d'assez sympathique et qui est assez disponible sur LinkedIn ou sur des Slack content. Donc ça, c'est toujours appréciable. Il y a une ops que j'avais vue à une conférence aussi qui s'appelle Kate Kenyon. À l'époque, elle était chez JP Morgan. Et j'avais bien aimé justement sa vision du métier d'ops et c'était très intéressant. Elle avait fait une conférence à Lead with Tempo. Et de manière assez globale, je lis beaucoup de contenu sur l'ops en général, sur notamment le product ops, le design ops. Tu vois, c'est un petit peu quand nous, en tant que rédac, on dit aux gens, bah, si vous venez du milieu de la rédaction, formez-vous au design. Bah, moi, je me forme un peu plus sur le, enfin, au produit, enfin, la gestion de bien faire une roadmap, Savoir prioriser les trucs, les projets. Et c'est ça que j'aime bien. Donc, il y a pas mal de ressources autour du Product Ops et du Design Ops. Et après, bah, voilà, en termes de ressources content, c'est souvent des ressources en anglais. Alors, il y a des blogs, des conférences. Donc, je pourrais te faire des petites sélections que j'ai pas forcément tout en tête là, mais c'est, je trouve que les ressources sont assez light sur le content, comme c'est un métier qui est nouveau et c'est peut-être pas aussi une vision que tout le monde a. Donc, comme je te disais, c'est côté produit, on trouve un peu plus d'infos.
Ok, bah, je mettrai, on rééchangera, tu pourras m'envoyer ta petite liste et je
Avec
la
plaisir,
mettrai dans les notes de l'épisode et dans la retranscription aussi sur le blog. Mais écoute, merci beaucoup, c'était hyper riche et moi aussi, ça me permet de faire ma veille, tu vois, avec toi.
ouais.
Donc ça, c'est top. Et c'est vrai que moi, sur le côté orga et tout ça, moi, j'aime beaucoup process et tout. C'est quelque chose que j'adore et qu'il faut aussi que je développe aussi professionnellement. Donc, bah, écoute, merci beaucoup. Ça va aider aussi pas mal du X-Writer ou de personnes qui commencent ce métier-là et qui arrivent dans une boîte où ils sont tout seuls, clairement. Donc, encore merci.
Merci à toi surtout. C'est toujours intéressant de, je trouve, de revenir un peu en arrière sur son parcours, sur les choses faites. Je trouve que parfois, quand on est dans le dur et qu'on trouve soit qu'on ne fait pas assez bien, soit que comme je disais, on pourrait faire mieux et qu'on a une journée compliquée, c'est toujours intéressant de remettre tout en perspective et de se dire, bon, il y a eu quand même tout ce travail accompli, donc ça fait du bien aussi, garder ça en tête.
C'est la petite rétro ou ton
C'est
journal
ça,
de
ouais,
gratitude
exactement.
ou une séance de psy en même
Ouais,
temps.
c'est un peu ça. Bah, merci pour ça, hein.
Merci à toi. Un grand merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. N'hésitez pas non plus à noter le podcast et à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt!